Chapitre 4. Un mois plus tard environ, en s'efforçant pour répondre à des questions formelles de dire honnêtement tout ce qu'il savait de l'incident, Jim déclarait en parlant du navire, « Il est passé sur l'obstacle, quel qu'il fût, sans plus de peine qu'une couleuvre qui file par-dessus un bâton. » La comparaison était juste. Les questions visaient des faits précis, et l'enquête officielle se poursuivait au tribunal de simple police d'un port d'Orient. Au banc des témoins, les joues brûlantes, Jim dominait le public entassé dans la haute salle fraîche. Bien au-dessus de sa tête, les cadres larges des pancas allaient et venaient doucement, et d'en bas, d'innombrables yeux le regardaient, des yeux de visages sombres, de visages blancs, de visages rouges, de visages attentifs et absorbés, comme si tous ces gens, sagement assis en rang sur des bancs étroits, eussent été captivés par la fascination de sa voix. Cette voix, très forte, sonnait violemment à ses propres oreilles. C'était le seul bruit qu'il y eut au monde, car les questions terriblement précises qui lui arrachaient des réponses semblaient se concréter dans sa poitrine en une douloureuse angoisse, et lui parvenaient, poignantes et silencieuses, comme l'interrogatoire de sa propre conscience. Au dehors, le soleil flamboyait. Dans la salle, il y avait le vent des grands punkas qui faisait frissonner, la honte qui brûlait, les yeux attentifs dont le regard perçait le cœur. Glabre et impassible, le visage du magistrat président paraissait à Jim mortellement pâle, entre les figures rouges de ses deux assesseurs maritimes. D'une large fenêtre percée sous le plafond, la lumière tombait sur la tête et les épaules des trois hommes, et ils se détachaient avec une netteté redoutable dans le demi-jour du grand tribunal, où l'auditoire paraissait formé d'ombre au regard fixe. Il voulait des faits, des faits. Il lui demandait des faits, comme si les faits pouvaient expliquer quelque chose. Après avoir compris que vous veniez de heurter une épave à la dérive, une coque à demi submergée peut-être, votre capitaine vous a ordonné d'aller voir à l'avant si le bateau avait subi une avarie. Croyez-vous la chose probable d'après la force du choc ? Demandait l'assesseur de gauche. Il avait un collier de barbe clairsemée et des pommettes saillantes. Les deux coudes sur la table, il joignait ses mains rudes devant son visage, en fixant sur Jim ses yeux bleus pensifs. Méprisant et massif, le second assesseur se renversait sur son siège, et le bras étendu de toute sa longueur, tambourinait délicatement du bout des doigts sur son buvard. Au milieu, le magistrat, très droit dans son vaste fauteuil, la tête légèrement inclinée sur l'épaule, croisait les bras sur sa poitrine. Quelques fleurs s'étiolaient dans un vase de verre à côté de son encrier. « Non, répondit Jim. On m'avait dit de n'appeler personne et de ne faire aucun bruit pour ne pas soulever de panique. J'ai trouvé la précaution judicieuse. J'ai pris une des lampes pendues sous les tentes pour aller me rendre compte. En ouvrant la première écoutille, j'ai entendu un clapotement. J'ai descendu ma lampe au bout de sa corde, et j'ai vu que la cale d'avant était déjà plus qu'à moitié pleine d'eau. J'ai compris qu'il devait y avoir un gros trou au-dessous de la ligne de flottaison. Il s'arrêta. « Oui, fit le gros assesseur avec un sourire rêveur à l'adresse de son buvard. Ses doigts ne cessaient pas de jouer et touchaient le papier sans bruit. Sur le moment, je n'ai pas songé au danger. J'ai pu être un peu saisi. La chose était arrivée si doucement et si brusquement aussi. Je savais qu'il n'y avait entre la cale avant et la cale de brigantine d'autres cloisons que la cloison de choc. Je suis remonté prévenir le capitaine. J'ai trouvé au pied de l'échelle de la passerelle le second mécanicien qui se relevait. Il paraissait étourdi et me déclara qu'il croyait s'être brisé le bras gauche. Il avait glissé du haut de l'échelle en descendant pendant que j'étais à l'avant. Il s'écria « Mon Dieu ! Cette cloison pourrie va céder dans une minute, et ce sacré sabot va s'enfoncer sous nos pieds comme un lingot de plomb. » Il m'écartait de son bras valide pour passer devant moi et gravir l'échelle. Il criait sans arrêt, et son bras gauche pendait à son côté. J'arrivais à temps pour voir le capitaine se jeter sur lui et l'allonger à plat sur le dos d'un coup de poing. Il ne le frappa plus, mais se pencha sur lui pour lui parler à voix basse, furieusement. Je crois qu'il lui demandait pourquoi diable il n'allait pas arrêter les machines, au lieu de faire un pareil vacarme sur le pont. Je l'entendis crier « Levez-vous, trottez, vite !» Il jurait. Le mécanicien s'affala par l'échelle de tribord, contourna l'écoutille et, tout gémissant, courut au capot de la chaufferie qui s'ouvrait à bâbord. Jim parlait lentement. Les détails lui revenaient à l'esprit avec une vivacité et une netteté parfaites. Il aurait pu, comme un écho, répéter les gémissements du mécanicien pour la pleine édification de ces hommes qui demandaient des faits. Après un premier moment de révolte, il avait fini par comprendre que seule une déposition précise et minutieuse pourrait rendre sensible à ces gens la véritable horreur de la situation sous l'apparence abominable. Les faits que ces hommes étaient si curieux de connaître avaient été visibles, tangibles, soumis au sens. Ils avaient tenu leur place dans l'espace et le temps, et exigé pour leur accomplissement un vapeur de 1400 tonneaux et 27 minutes d'horloge. Ils faisaient un tout, avec des traits, des nuances d'expression, un aspect compliqué dont l'œil pouvait garder le souvenir, mais avec quelque chose de plus aussi, quelque chose d'invisible, un esprit agissant de perdition, une volonté cachée, une âme malévole dans un corps détestable. C'est cela que Jim s'efforçait d'expliquer. Il ne s'agissait point d'une affaire banale. Le moindre fait y prenait une importance primordiale, et heureusement il se souvenait de tout. Il continuait à parler, par égard pour la vérité, mais peut-être que pour lui-même aussi. Sa parole était assurée, mais son esprit s'acharnait autour du cercle compact des faits qui avaient surgi de toutes parts autour de lui pour le séparer du reste des hommes. Il s'agissait comme une bête prisonnière dans une clôture de hauts piquets qui se rue tout autour, affolée dans la nuit, essayant de trouver dans la palissade un point faible, un trou, une place à escalader, une ouverture où se faufiler pour fuir. Cette horrible activité d'esprit le faisait hésiter parfois. Le capitaine allait et venait sur le pont. Il paraissait assez calme, mais il trébuchait de temps en temps, et à un moment où je lui parlais, il me heurta de front, comme un aveugle. Il ne faisait pas de réponse précise à ce que je lui disais. Il grommelait tout bas. Tout ce que je distinguais, c'était des mots comme « satanée vapeur »,« maudite vapeur », quelque chose à propos de vapeur. Je pensais, il s'égarait. Une question nette coupa brusquement sa déposition, comme un spasme de douleur, et il éprouva un découragement, une lassitude extrême. Il y venait, et maintenant, brutalement arrêté, il lui fallait répondre par oui ou par non. Loyalement, il répondit un mot. Oui, c'est vrai. Et blond, large, avec ses jeunes yeux mélancoliques, il tenait au-dessus du banc ses épaules très droites, tandis que son âme se tordait de douleur. Il dut répondre à une autre question, très précise, très inutile, et il attendit à nouveau. Sa bouche était sèche et sans goût, comme s'il eût mangé de la poussière, puis salée et amère, comme après une gorgée d'eau de mer. Il épongeait son front humide, passait sa langue sur ses lèvres parcheminées, sentait un frisson courir dans son dos. Indifférent et morose, le gros assesseur avait baissé le front et tambourinait en silence. Les yeux de l'autre paraissaient, à travers ses doigts joints et brûlés de soleil, rayonner de bonté. Le magistrat s'était laissé aller en avant. Son visage pâle se pencha sur les fleurs, puis, s'appuyant de côté au bras de son fauteuil, il posa sa tempe dans la paume de sa main. Le vent des punkas passait sur les têtes, sur les indigènes au teint sombre, enroulés dans des draperies amples, sur les Européens pressés les uns contre les autres, tous suant dans leurs vêtements de toile, aussi ajustés apparemment que leur peau même, et tenant sur leurs genoux leurs casques ronds de liège. Serrés dans de longues vestes blanches, les péons du tribunal se glissaient le long des murs, couraient vivement à droite et à gauche, alertes sur leurs pieds nus comme des épagneuls, silencieux comme des ombres sous les ceintures et les turbans rouges. Perdu sur la foule, dans l'intervalle de ses réponses, les yeux de Jim finirent par se poser sur un blanc assis à l'écart. Il avait un visage las et soucieux, mais le regard de ses yeux calmes et clairs était droit et attentif. Jim répondit à une question nouvelle, avec la tentation de crier « à quoi bon tout cela ?» Il tapa légèrement du pied, se mordit la lèvre, et jeta au loin un regard qui rencontra les yeux du blanc. Le regard de ces yeux-là n'était pas fasciné comme celui des autres. C'était un acte de volonté intelligente. Entre deux questions, Jim s'oublia au point de trouver le loisir d'une réflexion. « Cet homme-là me regarde, se disait-il, comme s'il voyait quelque chose ou quelqu'un derrière mon dos. » Il l'avait déjà rencontré une fois, dans la rue peut-être. Il était certain de ne lui avoir jamais parlé. Depuis des jours, de nombreux jours, il n'avait parlé à personne, mais avait tenu en lui-même des colloques silencieux, incohérents, sans fin, comme un prisonnier dans sa cellule ou un voyageur perdu dans un désert. À présent, il répondait à des questions, futiles malgré leur objet précis, mais il doutait, à l'avenir, de pouvoir jamais parler à quelqu'un. Le bruit même de ses paroles, de sa disposition sincère, renforçait sa conviction que le langage ne pouvait plus lui être d'aucune utilité. L'homme, là-bas, paraissait comprendre cette insurmontable difficulté. Jim le regarda, puis se détourna, comme pour un adieu définitif. Et plus tard, bien des fois, dans de lointaines régions du monde, Marlowe aimait à raconter ses souvenirs sur Jim, à les rapporter tout au long avec un luxe de détails. Souvent, c'était après dîner, sous une véranda drapée d'immobiles feuillages et couronnée de fleurs. Les feux rougeoyants des cigares trouvaient l'ombre profonde. Les longs fauteuils d'osier supportaient chacun un auditeur silencieux. De temps à autre, une petite lueur rouge remuait brusquement, éclairait les doigts d'une main paresseuse, un morceau de visage en parfait repos, ou allumait une flamme pourpre dans une paire d'yeux pensifs, abrités sous un front paisible. Dès ses premières paroles, le corps de Marlowe, nonchalamment étendu sur son siège, s'immobilisait, comme si son esprit, déployant ses ailes, eût remonté le chemin du temps pour venir parler par ses lèvres du fond du passé. Chapitre 5. Mais oui, disait-il, j'assistais à l'enquête, et je n'ai jamais cessé de me demander depuis ce qui m'y avait conduit. Je veux bien croire que nous avons tous un ange gardien, si vous m'accordez que chacun de nous possède aussi son démon familier. Je vous prie d'en convenir, parce que je n'aime me sentir exceptionnel en rien, et que je suis certain d'en avoir un démon s'entend. Je ne l'ai jamais vu, évidemment, mais toutes les circonstances de la vie me démontrent son existence. Il se tient près de moi, et c'est sa malignité foncière qui me lance dans ce genre d'aventure. Quelles aventures, me demandez-vous? Mais celle de l'enquête, cette espèce d'histoire de chien jaune. Voyez-vous un roquet galeux du pays qu'on laisse se lancer dans vos jambes sous la véranda d'un tribunal? Cette espèce de hasard qui, par des voies détournées, inattendues et vraiment diaboliques, place sur mon chemin des hommes tarés de points faibles, affligés de rudes misères et de plaies secrètes par Jupiter, et qui leur délie la langue en ma présence et les pousse à leurs infernales confidences, comme si vraiment je n'avais déjà pas assez de confidences à me faire à moi-même, comme si, Dieu me pardonne, je n'avais pas assez de pensées secrètes dans mon sac pour me ronger le cœur jusqu'au dernier de mes jours. Et ce que j'ai pu faire pour m'attirer une telle faveur, je voudrais le savoir. Je vous assure que je suis aussi préoccupé de mes propres soucis que mes voisins, et que j'ai autant de mémoire que la moyenne des pèlerins de notre vallée de larmes. Alors, vous voyez que je ne suis pas spécialement désigné comme réceptacle de confession. Alors, pourquoi? Je ne saurais le dire. À moins que ce ne soit pour m'aider à tuer le temps après dîner. Charles, mon ami, votre table était excellente, et de nature à faire considérer par ces messieurs un robre paisible comme une occupation tumultueuse. Ils se vautrent dans vos bons fauteuils en se disant « Au diable, tout est fort. Laissons parler ce Marlowe. » Parler, soit. Il n'est pas bien difficile de parler de Maître Jim au sortir d'un bon repas, à 200 pieds au-dessus de la mer, avec une boîte de cigares convenable sous la main. C'est une de ces soirées bénies de fraîcheur et d'étoiles, propres à faire oublier aux meilleurs d'entre nous que nous ne sommes ici-bas que par tolérance, et devons chercher notre chemin dans l'ombre, avec l'éternelle inquiétude de faire à chaque minute un pas irrémédiable, avec l'appréhension de nous dire que si nous gardons encore l'espoir de nous tirer d'affaire en définitive, nous n'en avons aucune certitude, et ne pouvons attendre aucune aide sérieuse des gens qui nous coudoient à droite et à gauche. Il y a des hommes, évidemment, pour qui la vie ressemble à cette fin de dîner, agrémentée d'un bon cigare, pour qui elle est facile, douce, vide, tout au plus animée parfois par quelques luttes imaginaires, oubliée avant que l'histoire en soit achevée, avant que la fin en soit connue, s'il y a jamais une fin à connaître. C'est au cours de l'enquête que mes yeux rencontrèrent les siens pour la première fois. Vous saurez que tout ce qui tenait de près ou de loin à la mer était à l'audience, parce que l'affaire était notoire depuis des jours, depuis ce mystérieux message câblé d'Aden qui avait soulevé tous les caquetages. Je dis mystérieux parce qu'il comportait une part de mystère, bien qu'il affirmât un fait tout nu et aussi vilain qu'un fait puisse l'être. Personne ne parlait plus que de cela. Le matin, quand je m'habillais dans ma cabine, le premier bruit qui me frappait les oreilles, c'était la voix de mon parsi Dubash, jacassant avec le steward sur l'affaire du Patna, devant une tasse de thé que par faveur spéciale on lui donnait à l'office. À peine descendu à terre, je rencontrais une connaissance qui m'abordait en disant « Avez-vous jamais rien vu pour enfoncer cela ?» Et selon sa nature, l'homme souriait cyniquement, prenait une mine contrite, ou lâchait quelques jurons. Des gens totalement étrangers l'un à l'autre s'accostaient familièrement, dans le simple but de se soulager l'esprit sur le sujet, et l'affaire était prétexte pour les maudits badauds de la ville à des beuveries copieuses. On vous en rebattait les oreilles dans les bureaux du port, chez tous les courtiers maritimes et chez les affréteurs, les blancs, les métis, les indigènes, jusqu'aux bateliers à demi-nus, accroupis sur les marches de pierre que vous montiez. Tout le monde en parlait par Jupiter. L'affaire soulevait quelque indignation, beaucoup de plaisanteries, mais surtout des discussions sans fin sur leur sort, vous comprenez? Ceci pendant 2 semaines ou plus, et l'opinion commençait à prévaloir que le mystère pourrait bien, en définitive, se corser de tragédie, lorsque me trouvant un beau matin devant le perron et dans l'ombre des bureaux du port, j'aperçus 4 hommes qui s'avançaient vers moi le long du quai. Je me demandai un instant d'où sortait ce singulier groupe, lorsque tout à coup je me criai véritablement à moi-même « Les voilà !» Et c'étaient bien eux, en effet, 3 d'entre eux grands comme nature, et le 4e plus gros qu'aucun être humain n'ait le droit de l'être. Ils venaient de débarquer, avec un bon déjeuner dans le ventre, d'un vapeur de la ligne Dale, entrée au port, en route pour l'Orient, 1 heure après le lever du soleil. Il n'y avait pas d'erreur possible, et du premier coup d'œil, j'avais reconnu le jovial patron du Patna, l'homme le plus gros de toute la région tropicale, sur tout le tour de notre bonne vieille planète. Je l'avais d'ailleurs rencontré déjà à Samarang, 9 ou 10 mois auparavant. On chargeait son vapeur en rade, et du matin au soir, jour après l'autre, il sacrait sur les institutions tyranniques de l'Empire allemand, en s'abreuvant de bière dans l'arrière-boutique de Dejong. Dejong, qui faisait sans sourciller payer 1 guilder la bouteille, m'attirait à part d'un signe de tête et me disait, sur un ton de confidence, en plissant sa petite figure couleur de cuir, « Les affaires sont les affaires, capitaine. Mais un homme comme cela, ça fait mal au cœur. » De l'ombre, je le regardais. Il marchait un peu en avant de ses compagnons, et le soleil qui le frappait faisait d'étranges façons ressortir son énormité. Il me faisait songer à un jeune éléphant dressé qui aurait marché sur les pattes de derrière. Il était vêtu de façon ridiculement voyante, aussi, attifé d'un pyjama sali à raies verticales, vert, pomme et orange, avec au pied une paire de savates déchirées, et sur le crâne un casque de liège de rebut, trop étroit de 2 pointures, très crasseux et attaché au sommet de sa grosse tête par un cordon de carré de manille. Vous comprenez qu'un homme pareil n'a pas l'ombre d'une chance quand il s'agit d'emprunter des vêtements. Très bien. Il courait à grands pas, sans un regard à droite ou à gauche, passa à 3 pieds de moi, et, dans l'innocence de son cœur, gravit au galop l'escalier du bureau du port pour faire sa déposition, son rapport, ou ce qu'il vous plaira de l'appeler. Il s'adressa d'abord, paraît-il, au premier maître de la navigation. Archie Ruthwell venait d'arriver et commençait sa rude journée, comme il le raconte lui-même, en lavant la tête à son premier commis. Certains d'entre nous ont peut-être connu ce petit métis portugais au pauvre cou décharné, un garçon très obligeant et toujours prêt à tirer quelque chose en fait de victuailles des patrons de navires, morceaux de porc salé, sacs de biscuits, pommes de terre, que sais-je. À l'un de mes voyages, je m'en souviens, je lui avais refilé un mouton vivant qui me restait à bord. Non que je voulusse rien lui demander, il ne pouvait rien pour moi, vous pensez, mais parce que sa foi puérile dans son droit sacré aux gratifications me touchait le cœur. Une telle conviction devenait belle à force d'être profonde. La race, les deux races plutôt, et le climat, mais passons. Je sais où trouver un ami pour le reste de mes jours. Ruthwell raconte donc qu'il lui administrait une bonne semonce, sur la moralité du fonctionnaire sans doute, lorsqu'il sentit dans son dos une sorte de secousse amortie, et, selon ses propres termes, vit en tournant la tête quelque chose de rond et d'énorme, une sorte de demi-muide de 800, vêtu de flanelle rayée et planté au milieu du plancher du bureau. À l'en croire, la stupeur l'empêcha, pendant un temps appréciable, de réaliser que la chose fût vivante. Il restait figé, se demandant dans quel but et par quel moyen cet objet avait été apporté dans son bureau. La porte de l'antichambre était obstruée par les tireurs de punka, les balayeurs, les péons de police, le patron et les hommes de la vedette du port, tous allongeant le cou et se grimpant sur le dos des uns des autres. Une vraie manifestation. Cependant, l'individu avait fini par enlever son chapeau de sa tête, et il s'avançait avec de petits saluts vers Ruthwell, pour qui le spectacle était si déconcertant qu'il écouta d'abord sans pouvoir comprendre ce qu'on lui voulait. La grosse masse parlait d'une voix dure et morne, mais intrépide, et le jour se fit peu à peu dans la tête d'Archie. Il comprit que c'était une suite à l'affaire du Patna. Il prétend s'être senti fort mal à l'aise dès qu'il eut reconnu l'homme. Archie est très impressionnable et se démonte facilement. Mais il se redressa vivement en criant « Arrêtez, je ne puis vous entendre. Il faut que vous alliez à la chefferie. C'est au capitaine Elliot que vous raconterez votre histoire. Par ici, par ici. » Il bondit et fit en courant le tour de la longue table. Il tirait et poussait l'homme qui, malgré sa surprise, se laissa d'abord faire docilement. Mais à la porte du bureau de la chefferie, une sorte d'instinct animal le redressa, renâclant comme un taureau effarouché. « Allons, qu'est-ce que c'est? Laissez donc, voyons !» Archie poussa violemment la porte sans frapper. « Le patron du Patna, monsieur » cria-t-il. « Entrez, capitaine !» Il vit le vieillard lever la tête au-dessus de son travail avec une telle vivacité que son pince-nez sauta. Sans en attendre davantage, il repoussa la porte et courut à son bureau, où des papiers attendaient sa signature. Mais, à l'en croire, le vacarme qui éclata était si affreux qu'il ne put assez reprendre ses esprits pour retrouver l'orthographe de son nom. Archie est le plus sensible des maîtres de la navigation des deux hémisphères. Il affirme qu'il avait l'impression d'avoir jeté un homme à un lion affamé. Il faut avouer que le bruit était violent. Je l'entendais d'en bas, et j'ai tout lieu de croire qu'on l'entendait d'un bout à l'autre de l'esplanade jusqu'au kiosque à musique. Le vieux père Elliot avait un beau choix de mots et savait crier, sans trop chercher d'ailleurs après qui il criait. Il aurait aussi bien crié après le vice-roi. Comme il me disait, j'ai mon bâton de maréchal et ma pension est assurée. J'ai mis quelques livres de côté, et si on n'est pas content de ma notion du devoir, j'aime autant retourner chez moi. Je suis un vieillard et je n'ai jamais mâché mon opinion. Tout mon désir maintenant, c'est de voir mes filles mariées avant ma mort. » Sur ce point-là, il était un peu toqué. Ses trois filles étaient charmantes, tout en lui ressemblant d'extraordinaire façon. Et les matins où il s'éveillait avec des inquiétudes sur leurs perspectives matrimoniales, Le bureau lisait la chose dans ses yeux et tremblait, parce que, disaient ces jeunes gens, on était sûr qu'il allait manger quelqu'un pour son déjeuner. Pourtant, ce matin-là, il ne mangea pas le renégat, mais, si vous me permettez de poursuivre la métaphore, il le mâchonna en tout petits morceaux, et il le recracha. Aussi ne fus-je pas long à revoir la masse monstrueuse descendre en hâte et s'arrêter sur les degrés extérieurs du perron. Plongé dans une méditation profonde, l'homme se tenait tout près de moi. Ses grosses joues violettes tremblaient, il se mordait le pouce et finit par s'apercevoir de ma présence. Il me jeta de côté un regard hargneux. Les trois hommes débarqués avec lui formaient un petit groupe à quelque distance. Il y avait un petit bonhomme maigriot, à figure blême, avec le bras en écharpe, et un grand diable en flanelle bleue, sec comme un copeau et gros comme un manche à balai, qui regardait autour de lui par-dessus sa moustache grise tombante, avec un air d'imbécilité insouciante. Le troisième était un jeune homme aux épaules larges, très droit, les mains dans les poches. Il tournait le dos aux autres, qui paraissaient plongés dans une discussion animée. Il regardait l'esplanade vide. Une guimbarde délabrée, au store vénitien poussiéreux, s'arrêta tout près du groupe, et le cocher, plaçant son pied droit sur son genou gauche, s'absorba dans l'examen critique de ses orteils. Le jeune homme ne faisait pas un mouvement, ne bougeait pas la tête. Il regardait la lumière. Telle fut ma première vision de Jim. Il avait cette insouciance hautaine dont peuvent seuls faire montre les jeunes gens. Il se tenait là, net de lignes et de visage, solide sur ses pieds, aussi riche de promesses que pouvait l'être sous le soleil aucun garçon de son âge, et à le regarder, moi qui savais tout ce qu'il savait lui-même, et un peu plus encore, je me sentais irrité, comme si je l'eusse surpris à tenter de m'extorquer quelque chose sous de fallacieux prétextes. Il n'avait pas le droit d'avoir une telle mine. « Eh bien, me disais-je, si un homme peut agir de la sorte. » Et je me sentais envie de jeter mon chapeau à terre et de le piétiner de mortification, comme j'avais vu le faire un jour le patron d'une goélette italienne, parce que son idiot de second s'était empêtré dans ses ancres, en voulant mouiller dans une rade encombrée. Devant cet air dégagé, je me demandais, est-ce de la bêtise ou de l'endurcissement? Il paraissait tout prêt à siffloter. Et, remarquez-le bien, je me souciais comme de l'an 40 de ce que pouvaient faire les deux autres. Leur aspect convenait bien à l'histoire qui faisait les frais de toutes les discussions et allait être l'objet d'une enquête officielle. « Ce vieux fou là-haut, ce vieux scélérat m'a traité de chien !» grommelait le capitaine du patenat. Je ne saurais dire s'il me reconnut. J'incline à le croire. Mais en tout cas, nos regards se croisèrent. Il ouvrit de grands yeux. Moi, je souris, car ce terme de chien était la plus anodine des épithètes qui me fussent parvenues par la fenêtre ouverte. « Ah, vraiment ! » m'écriai-je, mû par une étrange impuissance à retenir ma langue. Il fit un signe de tête, se mordit de nouveau le pouce et jura à mi-voix. Puis, redressant le front et me regardant avec une impudence morose et rageuse, « Pah ! Le Pacifique est grand, mon ami ! Vous pouvez faire tout ce que vous foutrez, sacré enclet que vous êtes. Je sais bien où il y a de la place pour un homme comme moi. Je suis bien connu, à Apia, à Honolulu. Ah !» Il fit une pause méditative, tandis que je me figurais sans peine l'espèce de gens dont il pouvait être connu dans ces endroits-là. Il y a des moments où un homme doit faire comme si la vie était aussi agréable dans une compagnie qu'en tout autre. J'ai connu des moments semblables, et le mieux, c'est que je ne prétendais pas faire la grimace devant de telles nécessités. Dans une compagnie pêchant par défaut de, comment dire, de tenue morale, les gens étaient 10 fois plus instructifs et 20 fois plus amusants que les respectables bandits de commerce que vous invitez à votre table sans nécessité réelle, par habitude, par lâcheté, par bon garçonnisme, pour 100 raisons misérables et inopérantes. « Vous autres, en clair, vous êtes tous des coquins !» reprit mon patriote australien de Flensborg ou de Stettin. Je ne me rappelle plus maintenant quel gentil petit port de la Baltique avait eu la honte de servir de nid à ce précieux oiseau. « Qu'est-ce que vous êtes tous pour crier comme cela? Et dites-le-moi, vous ne fallait pas mieux que les autres. » et ce vieux coquin a fait un bruit tout diable avec moi. » Son épaisse carcasse tremblait sur ses jambes qui ressemblaient à une paire de piliers. Elle tremblait de la tête aux pieds. « Voilà comment vous faites toujours, vous autres enclés. Des sacrées histoires pour la plus petite chose, parce que je ne suis pas né dans votre sacré pays. M'enlevez mon certificat, prenez-le, je n'en veux plus de votre certificat. Un homme comme moi n'a pas besoin de votre ferflucte certificat. Je crache dessus. » Il cracha. « Je me ferai citoyen américain, » criait-il, en jetant feu et flamme et en frottant ses pieds sur le sol comme pour libérer ses chevilles d'une mystérieuse et invisible étreinte qui aurait voulu le river à cet endroit. Il avait si chaud à force de s'agiter que le sommet de sa tête ronde en fumait positivement. Moi, ce n'est point une puissance mystérieuse qui m'empêchait de m'éloigner. De tous les sentiments, la curiosité est celui qui se manifeste avec le plus d'évidence, et c'est elle qui me tenait là, dans l'attente de l'effet des nouvelles sur ce jeune homme, qui, les mains dans les poches et le dos tourné au trottoir, regardait par-dessus les pelouses de l'esplanade, le portique jaune de l'hôtel Malabar, avec la mine d'un garçon tout prêt à partir se promener dès que son ami sera prêt. Voilà l'air qu'il avait, et c'était odieux. Je m'attendais à le voir écrasé, confondu, transpercé, agité comme un hanneton empalé, et j'avais redouté un tel spectacle, si vous pouvez le comprendre. Rien n'est plus affreux que de regarder l'homme convaincu non pas d'un crime, mais d'une faiblesse plus que criminelle. C'est la forme la plus commune du courage, qui nous empêche de devenir des criminels au sens légal du mot, mais des faiblesses inconnues, des faiblesses vaguement soupçonnées, comme on soupçonne en certains points du monde le moindre buisson de receler un serpent mortel, des faiblesses qui se cachent, que l'on guette ou que l'on ignore, que l'on implore ou que l'on dédaigne virilement, que l'on refoule ou que l'on méconnaît pendant plus de la moitié de sa vie. De ces faiblesses-là, aucun de nous n'est à l'abri. Nous nous laissons attirer vers des pièges, nous nous laissons pousser à des actes qui nous valent des injures, à des crimes qui nous mènent au gibet, ce qui n'empêche pas notre intégrité morale de survivre parfois, de survivre à la condamnation, de survivre à la pendaison par Jupiter. Ce sont souvent des choses bien insignifiantes qui causent notre perte définitive et irrémédiable. Je regardais donc le jeune homme dont la mine me plaisait. Je connaissais ce genre d'homme. Il sortait du bon moule, c'était l'un des nôtres. Il représentait là toute sa race, une race d'hommes et de femmes qui n'ont rien de fin ni de plaisant, mais dont toute l'existence est basée sur une foi droite et sur l'instinct du courage. Je ne parle pas du courage militaire, du courage civil ou d'aucune espèce particulière de courage. Je parle de cette aptitude innée à regarder les tentations en face. Aptitude assez peu intellectuelle, évidemment, mais sans pause, capacité de résistance médiocrement gracieuse, si vous voulez, mais inappréciable raideur spontanée et bénie devant la terreur du dedans et du dehors, devant les forces de la nature et la séduisante corruption des hommes, doublée d'une indéfectible foi dans la puissance des faits, la contagion de l'exemple, la sollicitation des idées. Au diable les idées ! Ce sont des rôdeuses, des vagabondes, qui viennent frapper à la porte dérobée de votre esprit, dont chacune enlève une parcelle de votre substance et emporte une miette de cette foi en quelques notions très simples, auxquelles il faut s'accrocher si l'on veut vivre honnêtement et si l'on souhaite une mort facile. Tout cela n'a rien à faire directement avec Jim. Seulement, il était le représentant typique de cette bonne race stupide dont nous aimons sentir les coudes dans la vie, de cette race qui ne se laisse pas troubler par les fantaisies de l'intelligence ou par les perversions des, disons, des nerfs. C'était un de ces hommes à qui l'on confierait sur sa mine, au figuré comme au sens professionnel du terme, la surveillance d'un pont de navire. Je dis que je le ferai, au moins, et je crois m'y connaître. J'en ai assez dégrossi de ces jeunes gens à qui j'ai appris pour le service du drapeau rouge le métier de marin, ce métier dont tout le secret pourrait tenir en une phrase brève et qu'il faut pourtant implanter à nouveau chaque jour dans de jeunes cervelles jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de leur première pensée du réveil et qu'ils se présentent dans chaque rêve de leur jeune sommeil. La mer a été bonne pour moi. Mais quand je revois tous ces enfants qui m'ont passé par les mains, certains hommes faits maintenant, d'autres passés par-dessus bord, mais tous de bonne étoffe pour le métier, je ne crois pas lui avoir rendu non plus mauvais service. Si je retournais demain au pays, je parie qu'avant 2 jours, quelques jeunes seconds, tout brûlés de soleil, viendraient à ma rencontre sur un quai de bassin, et qu'une voix fraîche et profonde demanderait par-dessus mon chapeau « Vous ne vous souvenez plus de moi, monsieur ? Comment ? Le jeune, un tel, embarqué sur tel bateau, c'était mon premier voyage. » Et je reverrai un jeune blanc bec éberlué, pas plus haut que ce dossier de chaise, avec une mère et peut-être une grande sœur restées sur le quai, toutes silencieuses et trop émues pour agiter leurs mouchoirs devant le bateau qui glisse doucement entre les musoirs des jetées. Ou peut-être un brave homme de père sorti à la première heure pour accompagner son fils, qui passe toute la matinée sur le pont en feignant de s'intéresser à la manœuvre du guindeau, et qui, finissant par s'attarder trop longtemps, doit, à la dernière minute, se précipiter à terre sans même trouver le temps d'un adieu. J'entends le pilote crier de la poupe « Bossez le câble un instant, capitaine ! Il y a un gentleman qui veut retourner à terre. Allons, monsieur, vous avez failli partir pour Talcahuano, n'est-ce pas ? Maintenant, allez-y, c'est fait. En avant, doucement. » Les remorqueurs vomissent leur fumée comme des abîmes infernaux et battent furieusement la vieille rivière. Sur le quai, le vieux monsieur secoue la poussière de ses genoux et le steward obligeant lui a lancé son parapluie. Tout est pour le mieux. Il a offert son sacrifice à la mer et peut retourner chez lui maintenant en faisant mine de n'attacher aucune importance à son geste. La petite victime volontaire sera très malade avant le lendemain. Bientôt, quand l'enfant aura appris tous les petits mystères et le seul grand secret du métier, il sera bon pour vivre ou pour mourir, selon ce que la mère en décidera. Et l'homme qui a joué un rôle dans cette partie absurde où la mère gagne à tout coup, sera heureux de sentir une jeune main pesante lui frapper sur l'épaule et d'entendre la voix joyeuse d'un louveteau de mer lui crier « Vous vous souvenez bien, monsieur, le petit untel ?» Je vous dis que cela fait du bien. Vous sentez qu'une fois au moins dans votre vie, vous avez travaillé dans le bon sens. J'ai reçu des tapes de ce genre et j'ai fait la grimace car elles étaient lourdes. Mais je m'en suis trouvé réchauffé tout le jour. Et je suis allé me coucher en me sentant moins seul au monde, au souvenir de cette bourrade cordiale. Si je me rappelle les jeunes un tel, je vous dis que je devrais m'y connaître en bonne mine. Et ce garçon-là, je lui aurais confié le pont du premier coup. J'aurais dormi après, sur les 2 oreilles, et voyez, j'aurais eu tort. Il y a des abîmes d'horreur dans une pensée pareille. Il paraissait net comme un souverain neuf, mais il y avait un alliage infernal dans son métal. En quelle proportion ? Une quantité minime, une goutte minuscule d'un métal rare et maudit, une goutte imperceptible. Mais à le voir là, avec son air de s'en moquer, on se demandait s'il n'était pas fait par hasard du bronze le plus vil. Je ne pouvais pas le croire pourtant. Je vous dis que je voulais le voir regimber pour l'honneur du métier. Les 2 autres personnages insignifiants avaient aperçu leur capitaine et s'avançaient lentement vers lui. Ils bavardaient en marchant, et je ne me souciais pas plus d'eux que s'ils eussent été invisibles à l'œil nu. Ils ricanaient. Ils échangeaient peut-être des plaisanteries, que sais-je. Je vis que l'un d'eux avait le bras cassé. Quant au grand individu à moustache grise, c'était le premier mécanicien qui jouissait déjà, en plus d'une façon, d'une assez belle notoriété. 2-0. Ils approchaient. Le capitaine regardait entre ses pieds d'un air abruti. Il paraissait gonflé d'anormale façon par quelque maladie terrible ou par l'action d'un poison inconnu. Il leva la tête, vit les 2 hommes debout devant lui, ouvrit la bouche avec une contraction extraordinaire et grimaçante de son visage boursouflé, pour leur parler sans doute, lorsqu'une pensée parut le frapper. Ses grosses lèvres violettes se refermèrent sans une parole. Il se dirigea d'un pas résolu vers la voiture et se mit à secouer la poignée de la portière avec une impatience si brutale et si aveugle que je m'attendais à voir la guimbarde renversée avec le poney. Arraché à la méditation qui le tenait penché sur la plante de son pied, le cocher donna tous les signes d'une intense terreur et se cramponna des 2 mains à son siège en se retournant pour regarder l'énorme carcasse s'engouffrer dans la voiture. La petite machine roulait et tanguait tumultueusement et la nuque cramoisie, le cou abaissé, les formidables cuisses arc-boutées, la voussure énorme de ce dos sale rayé d'orange et de vert, tout l'effort de cette masse voyante et sordide pour se cacher, troublait le sentiment des choses normales, produisait un effet ridicule et terrible, comme ces visions grotesques et distinctes qui fascinent et épouvantent dans la fièvre. Il disparut. Je m'attendais un peu à voir le toit se fendre en deux et la petite boîte éclater sur ses roues comme une gousse de cotonnier. Mais elle s'affaissa seulement avec un gémissement des ressorts aplatis, et tout à coup, un des stores vénitiens s'abaissa violemment. Encastré dans l'étroite ouverture, je vis réapparaître les épaules du capitaine. Sa tête se penchait, gonflée et agitée, comme un ballon captif, suante, furieuse, bredouillante. Il faisait vers le cocher des gestes brusques, avec un poing aussi mastoc et aussi rouge qu'un morceau de viande crue. Il lui criait de partir, de filer, ou dans le Pacifique peut-être. Le cocher fouetta son poney qui s'ébroua, recula d'un pas, puis partit au galop. Pour où? Pour Apia? Pour Honolulu? Il avait 3000 lieues de Pacifique à sa disposition, et je n'avais pas entendu l'adresse exacte. En un clin d'œil, un poney renacleur l'emporta dans l'Ewigkeit, et je ne le revis plus. Bien plus, je ne connais personne qui l'ait jamais revu, depuis le moment où il disparut à mes yeux, dans cette guimbarde délabrée, qui tournait le coin de la rue en soulevant un nuage de poussière blanche. Il partit, il disparut, s'évanouit, s'éclipsa, et l'on eût pu croire absurdement qu'il avait emporté la voiture avec lui, car jamais plus je n'aperçus poney alezan à l'oreille fendue ou cocher tamil mélancolique, affligé d'un pied endolori. Certes, le Pacifique est vaste, mais qu'il ait ou non trouvé un endroit pour exercer ses talents, le fait subsiste qu'il disparut dans l'espace comme une sorcière sur un manche à balai. Le petit homme, au bras en écharpe, se mit à courir derrière la voiture en criant « Capitaine, hé, dites donc, capitaine, hé, hé !» Mais après un instant, il s'arrêta tout court, baissa la tête et revint lentement sur ses pas. Au bruit des roues, le jeune homme avait fait une volte brusque. Il n'eut pas d'autre mouvement, pas un geste, pas un signe, et resta tourné dans la direction où l'autre venait de disparaître. Tout cela se passa en beaucoup moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, car je m'efforce d'interpréter en lentes paroles, à votre intention, les faits instantanés d'impression visuelle. Une minute plus tard, entrait en scène le commis métis envoyé par Archie pour s'occuper un peu des pauvres naufragés du Patna. Agité et tête nue, il courait à droite et à gauche. Plein de sa mission, vouée pourtant à l'insuccès en ce qui concernait le principal personnage, il abordait les autres avec une importance brouillonne, et se trouva tout de suite engagé dans une violente altercation avec l'individu au bras en écharpe, qui paraissait très porté à faire du tapage. Il n'allait pas se laisser mener comme cela, que diable! Ah non! Il ne se laisserait pas terrifier par un tas de mensonges, ni par un petit freluquet de gratte-papier métis. On ne le ferait pas marcher avec des trucs comme cela, même s'il y avait quelque chose de vrai dans l'histoire. Il braillait, il vociférait, affirmant son désir, sa ferme résolution d'aller se coucher. « Si vous n'étiez pas un maudit portugais, criait-il, vous sauriez que ma vraie place est à l'hôpital. » Il fourrait son poing valide sous le nez du commis. La foule commençait à s'amasser. Le métis, ahuri, s'efforçait de rester digne et tentait une explication. Je m'éloignais sans attendre la fin de la scène. Mais il se trouva qu'ayant à ce moment-là un de mes hommes à l'hôpital, et allant le voir la veille de l'enquête, j'aperçus dans la salle des Blancs le petit bonhomme délirant sur un lit, le bras dans des attelles. Et à ma grande surprise, l'autre, le grand individu à moustache grise tombante, se trouvait aussi dans la salle. Je me souvenais de l'avoir vu filer pendant la querelle, moitié arrogant, moitié sournois, mais s'efforçant surtout de ne pas laisser paraître de terreur. Il devait connaître le port et sut, dans sa détresse, gagner tout droit le café billard de Mariani près du bazar. Cet innommable vagabond de Mariani l'avait rencontré autrefois, et avait déjà pourvu à ses vices en d'autres circonstances. Il baisa presque le sol devant ses pieds, et l'enferma avec une provision de bouteilles dans une chambre du haut de son ignoble bouge. L'homme devait concevoir quelque appréhension vague sur sa sécurité personnelle, et chercher à se cacher. Bien longtemps après, un jour qu'il venait à bord réclamer à mon steward le prix de quelques cigares, Mariani raconta qu'il eût fait bien davantage pour cet homme-là, sans lui poser la moindre question, en mémoire de quelques faveurs impies qu'il en avait reçues de longues années auparavant, si j'ai bien compris. Il frappait sa poitrine musclée en roulant ses énormes yeux blancs et tout noirs, tout brillants de larmes. « Antonio n'oublie jamais. Antonio n'oublie jamais. » La nature précise de ces obligations immorales, je ne l'ai jamais connue. Mais quelle qu'elle fût, elle valut à l'homme toute facilité pour rester à l'abri derrière une porte close, avec une table, une chaise, un matelas dans un coin et une couche de plâtras sur le plancher. En proie à une frousse irraisonnée, il se remontait le moral avec les toniques que lui envoyait Mariani. Cette réclusion dura jusqu'au soir du troisième jour, où, après avoir poussé quelques cris horribles, le vieux bandit se trouva obligé de chercher le salut dans la fuite devant une légion de mille pattes. Il ouvrit violemment la porte, sauta dans le petit escalier vermoulu, tomba sur la poitrine de Mariani, se remit sur ses pieds et bondit dans la rue comme un lapin. La police le ramassa au petit jour sur un tas d'ordures. Il se figurait tout d'abord qu'on le menait pendre et combattit comme un héros pour sa liberté. Mais lorsque je m'assis à son chevet, il était très tranquille depuis 2 jours. Sur l'oreiller, son visage maigre et bronzé aurait paru calme et beau sous la moustache grise, comme une tête de vieux guerrier usé par les combats, et gardant une âme d'enfant, sans la terreur fantastique que l'on devinait sous l'éclat fébrile de son regard, comme une sorte d'épouvante mystérieuse, silencieusement tapie derrière un carreau. Il gardait un tel calme que je me flattais déjà de l'absurde espoir de recueillir de sa bouche une explication sur la fameuse affaire. Je ne saurais expliquer d'ailleurs la raison qui me poussait à élucider les détails d'un incident déplorable. Somme toute, l'histoire ne m'atteignait que comme membre d'une obscure confrérie d'hommes, réunis par le partage de peines sans gloire et par la fidélité à certaines lignes de conduite. Libre à vous de dire que c'était une curiosité malsaine, mais moi, j'ai la nette impression que j'espérais trouver quelque chose. Peut-être souhaitais-je inconsciemment trouver ce quelque chose, la cause profonde et propre à tout faire oublier, l'explication miséricordieuse, l'ombre d'une excuse convaincante. Je vois bien maintenant que j'attendais l'impossible, que j'affrontais le fantôme le plus obstiné de l'imagination humaine, le doute inquiet qui monte comme un brouillard, ronge en secret comme un ver, qui est plus glaçant qu'une certitude de mort, le doute de la puissance souveraine que comporte une ligne fixe de conduite. C'est la plus redoutable des pierres d'achoppement. C'est ce doute-là qui suscite les paniques hurlantes et les bonnes petites vilainies paisibles. C'est l'ombre véritable des calamités. Croyais-je donc au miracle, et avais-je une raison de le souhaiter si ardemment? Était-ce par amour-propre que je désirais trouver une ombre d'excuse à un jeune homme inconnu jusqu'à ce jour, mais dont le seul aspect colorait d'une nuance d'intérêt personnel les pensées suggérées par la certitude de sa faiblesse, en faisant de cette défaillance une chose de mystère et de terreur, une obscure menace de destruction suspendue sur notre tête à tous, à nous dont la jeunesse avait, en son temps, si bien ressemblé à la sienne. Je crains fort que le motif secret de ma curiosité fût bien là. C'est un miracle que j'attendais, sans aucun doute. Maintenant, à distance, la seule chose qui me paraisse miraculeuse, c'est l'étendue de ma naïveté. J'espérais vraiment trouver chez ce vieil invalide délabré et obscur un exorcisme contre le fantôme du doute. Il fallait que je fusse bien imprudent aussi, car sans perdre de temps, après quelques banalités aimables auxquelles il répondait avec une bonne volonté nonchalante, je hasardai le nom du patna, en l'enveloppant dans une question adroite, comme dans une touffe de bourre de soie. Mon égoïsme usait de délicatesse. Je ne voulais pas le troubler. Je ne ressentais pourtant aucune sollicitude pour lui, et n'éprouvais à son endroit ni colère ni peine. Ses sensations étaient sans conséquence, et je ne me souciais nullement de sa réhabilitation. Il avait vieilli dans de mesquines iniquités, et ne pouvait plus inspirer aversion ni pitié. Il répéta « Le patna ?» d'un air interrogateur, parut faire un bref effort de mémoire et dit « Ah oui, vieux routier dans ces parages. Je l'ai vu sombrer. » J'allais donner libre cours à mon indignation devant un mensonge aussi stupide lorsqu'il ajouta doucement « Il était plein de reptiles. » Ces paroles me firent tenir quoi? Que voulait-il dire? Le fantôme vacillant de la terreur, tapi derrière ses yeux vitreux, parut s'immobiliser pour me regarder fixement. « Ils m'ont tiré de ma couchette pendant le second quart, pour le voir sombrer, » poursuivit-il d'un ton plaintif. Sa voix prenait tout à coup une sonorité redoutable. Je regrettais mon imprudence. Nulle cornette neigeuse de sœur infirmière n'agitait ses ailes d'un bout à l'autre de la salle. Seul au milieu d'une longue rangée de lits de fer vides, un blessé venu d'un bateau ancré en rade, dressé sur sa paillasse, sa silhouette brune et maigre, et son front entouré de bandages blancs. Tout à coup, mon intéressant malade lança un bras mince comme une tentacule vers mon épaule et l'agrippa violemment. « Seulement, disait-il, j'avais d'assez bons yeux pour tout voir. On sait que j'ai une fameuse vue, et c'est sans doute pour cela qu'ils m'ont appelé. Ils n'étaient pas assez dégourdis, eux, pour le voir sombrer. Mais ils se sont bien vite aperçus qu'il avait disparu, et ils se sont mis à chanter tous ensemble, comme cela. Un hurlement de loup vint me secouer jusqu'au fond de l'âme. « Oh, faites-le taire !» criait le blessé avec colère. « Vous ne me croyez pas, sans doute, reprenait l'autre, sur un ton d'ineffable suffisance. Je vous dis que vous pouvez chercher des yeux comme les miens de ce côté-ci du golfe Persique. Regardez sous le lit. » Naturellement, je me penchais sans hésiter. J'aurais défié quiconque de n'en pas faire autant. « Qu'est-ce que vous voyez ? » me demanda-t-il. « Rien, répondis-je, tout honteux de moi-même. » Il me regarda avec un mépris écrasant, un mépris mortel. « Naturellement, fit-il, mais si je regardais, moi, je verrais, il n'y a pas Dieu comme les miens, vous dis-je. » Il me saisit à nouveau l'épaule et se souleva vers moi dans son désir de soulager son cœur par une communication confidentielle. « Des millions de crapauds roses, il n'y a pas Dieu comme les miens, des millions de crapauds roses, pis que de voir sombrer un navire. Je regarderai sombrer des navires toute la journée sans cesser de fumer ma pipe. Pourquoi ne me la rend-on pas, ma pipe ? Je fumerai un peu en surveillant ces crapauds-là. Le bateau en était plein. Il faut les tenir à l'œil, vous savez. » Il eut un clignement de paupières facétieux. La sueur me coulait sur le front. Ma veste de toile collait à mon dos humide. La brise du soir passait impétueusement sur la rangée des lits, en soulevant tout droit les plis raides des rideaux qui faisaient grincer les tringles de cuivre. D'un bout à l'autre de la salle, les couvertures des lits vides se gonflaient sans bruit au-dessus du sol nu, et je frissonnais jusqu'à la moelle des os. La brise molle des tropiques soufflait aussi lugubrement dans cette salle vide qu'une tempête d'hiver dans une grange d'Angleterre. « Ne les laissez pas partir dans cette voie-là, monsieur !» me cria de loin le blessé sur un ton de colère inquiète, qui sonnait entre les murs comme un appel tremblant dans un tunnel. La main me harponnait l'épaule, et l'homme me regardait d'un air entendu. « Le bateau en était plein, vous savez, et nous avons dû filer au plus vite !» murmurait-il avec volubilité. Tout rose, gros comme des dogues, avec un œil au sommet de la tête, et des crocs tout autour de leur vilaine gueule. Oh, oh, des soubresauts brefs comme des secousses galvaniques révélaient sous la mince couverture les formes des jambes minces et trépidantes. Il lâcha mon épaule pour atteindre quelque chose dans l'air. Son corps tendu tremblait comme une corde de harpe, et tandis que je le regardais, l'horreur spectrale se déchaîna et sortit par ses yeux vitreux. Le visage aux lignes nobles et calmes du vieux soldat se déforma sous mes yeux, instantanément décomposé par la corruption d'une ruse sournoise, d'une honteuse circonspection et d'une terreur abjecte. « Ah, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, maintenant ? » demandait-il en montrant le sol avec de fantastiques précautions de voix et de gestes, dont le sens illumina soudain mon esprit avec une lucidité écœurante. « Ils sont endormis, » répondis-je, en le regardant de près. J'avais trouvé, c'était ce qu'il voulait savoir. C'étaient les paroles même nécessaires pour le calmer. Il poussa un long soupir. « Chut, tout doux. Rien. Je suis un vieux routier par ici. Je les connais, ces animaux-là. Pan sur la tête du premier qui bouge. Il y en a trop. Le bateau ne tiendrait pas 10 minutes. » Il haletait à nouveau. « Vite, » reprit-il tout à coup. Puis, dans un long cri, « Les voilà réveillés. Des millions. Ils viennent sur moi. Attendez. Oh, je vais les écraser comme des mouches. Attendez-moi. Au secours. Au secours !» Un hurlement soutenu, interminable, activait ma déroute. Je voyais au bout de la salle le blessé lever avec désespoir les deux mains au-dessus de sa tête bandée. Un infirmier vêtu de blanc jusqu'au menton apparut dans la perspective de la porte comme au gros bout d'une lorgnette. J'avouai ma défaite, et sans plus attendre, sortis par une des hautes fenêtres sur la galerie extérieure. Le hurlement me poursuivait comme une vengeance. Je débouchai sur un palier désert, et soudain, il n'y eut plus que paix et calme autour de moi. Je descendis l'escalier nu et luisant, dans un silence qui me permit de recouvrer mes esprits égarés. En bas, je rencontrai l'un des médecins de garde qui traversait la cour. Il m'arrêta. « Vous venez de voir votre homme, capitaine. Je crois que nous pourrons vous le rendre demain. Mais ces imbéciles-là n'ont pas la moindre notion des soins qui leur sont nécessaires. Dites donc, nous avons ici le chef mécanicien de ce bateau pèlerin. C'est un cas bien curieux, un delirium tremens des plus graves. Il a bu sec pendant 3 jours dans le café de cet Italien ou de ce Grec. Comment s'attendre à autre chose ? 4 bouteilles par jour de leur espèce d'eau de vie, m'a-t-on dit. Prodigieux, si c'est vrai. Il faut qu'il ait l'estomac blindé en tôle de chaudière. La tête, la tête, elle est partie naturellement. Mais le plus singulier, c'est qu'il y a une sorte de méthode dans sa folie. J'essaye de débrouiller le cas. C'est tout à fait remarquable, ce semblant de logique dans un pareil délire. Normalement, il devrait voir des serpents, mais il n'en voit pas. Les bonnes vieilles traditions se perdent de nos jours, eh ? Ces visions ont trait à des batraciens. Ah ah ! Non, sérieusement, je ne me rappelle pas avoir été aussi intéressé jamais par un cas de démence. Il devrait y être resté, après une telle cuite. Oh, c'est un vieux dur à cuire. 24 ans de tropique, ou plus. Vous devriez bien jeter un coup d'œil sur lui. Il a bel air, le vieil ivrogne. L'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré, au point de vue médical, s'entend. Vous ne montez pas ? J'avais donné des signes ordinaires d'un intérêt poli, mais je pris un air de regret, et, arguant du manque de temps, serrai en hâte la main du médecin. « Dites donc, me cria-t-il de loin, il ne pourra pas assister à l'enquête. Croyez-vous que son témoignage soit bien important ?»« Pas du tout, répondis-je de la porte.